Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon?
On fait pas chier.
On essaye? Allez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. C'est Adrien et aujourd'hui on a décidé de se faire peur en ressortant du placard un film d'horreur oublié du début des années 80. Un film pourtant réalisé par Toby Massacre à la tronçonneuse Hooper et qui est selon moi bien au-dessus de beaucoup de films d'horreur mis en avant, Massacre dans le train fantôme.
Qui aura le courage d'affronter les terreurs sans nom du train fantôme? Qui sera assez brave pour oser s'aventurer dans son univers de ténèbres et d'angoisse?
Quelque chose est vivant au cœur de cette nuit. Quelque chose d'affreux, d'innommable. Quelque chose qui devrait être mort. Quelque chose qui a une forme humaine, mais le faciès d'un monstre.
Si c'est pas bien,
ça va être formidable.
Quelque chose de répugnant qui se repaît de chair encore vivante.
Quoi ? C'est parti !
Quelque chose qui, cette nuit, transformera le train fantôme en musée des horreurs.
La fête foraine arrive en ville. Celle-ci traîne une mauvaise réputation. En effet, dans chaque ville où elle est passée, on rapporte d'étranges disparitions de jeunes filles. Malgré l'interdiction de ses parents, Amy décide de s'y rendre pour rejoindre ses amis. La nuit s'annonce mouvementée. Au programme, attractions en tout genre, bonbons, barbe à papa, spectacles occultes et bien sûr, le train fantôme. Le groupe d'amis a subitement la merveilleuse idée de se cacher dans le train fantôme et d'y passer la nuit. Tout cela était sans compter sur le fils du propriétaire, un être monstrueux et mentalement dérangé, qui va prendre un malin plaisir à leur faire regretter leur intrusion.
Tu as entendu ce que j'ai dit au sujet de la fête foraine? Ils ont dû se servir des fiches dentaires pour identifier
les corps. Oui, j'ai entendu.
Où est-ce que vous allez ce soir?
Toby Hooper est un enfant du Texas. Passionné de cinéma depuis toujours, il est abreuvé depuis sa plus tendre enfance de films de monstres, notamment ceux de la Hammer et d'Universal. Après avoir sorti Massacre à la tronçonneuse, Hooper est devenu l'homme d'un seul film. Sa plus grande réussite est à la fois sa malédiction.
Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
Vous êtes cinglés ! Non ! Vous êtes fous ! Arrêtez !
En 1977, il réalise Eaten Alive, ou Le Crocodile de la Mort, l'histoire d'un ermite gardant dans son marais un alligator mangeur d'hommes. Il s'implique ensuite dans plusieurs projets sans succès, notamment sa brève intervention dans Motel Hell. Puis, en 1979, il est approché par la Warner pour réaliser une adaptation télé des Vampires de Salem de Stephen King.
Nous vous avons présenté hier un extrait d'une comédie musicale, Fame, qui a remporté un très gros succès au Festival de Deauville, le Festival du film américain. Mais il y a tous les genres à Deauville. Et voici aujourd'hui un film d'épouvante, pourquoi pas, Les Vampires de Salem. C'est un film dont le but est de vous faire très peur. Et le réalisateur Tom Hooper n'a pas lésiné sur la réalisation, particulièrement impressionnante et efficace, vous allez le voir. La vedette du film, c'est James Mason, qui interprète le rôle d'un antiquaire très inquiétant, qui introduit dans la ville de Salem des vampires. Et dans l'extrait que vous allez voir, eh bien, les vampires sont en action.
Le travail de Hooper est remarquable compte tenu des contraintes imputées au tournage d'une fiction pour la télévision. La résonance de son téléfilm est telle que le prochain film de Hooper met déjà l'eau à la bouche des spectateurs. En pleine hype du cinéma d'horreur, l'expérience de Hooper ne devrait pas tarder à attirer les studios. Il est alors mis aux commandes des Nuits de la Violence, mais pendant le tournage, son travail ne convainc pas le studio. Il est alors évincé du projet malgré le soutien des producteurs. C'est John Cardos qui le remplacera et qui sera alors le seul réalisateur crédité pour le film. Il fait la rencontre de Larry Block qui lui parle d'un scénario impliquant une fête foraine et des adolescents se faisant assassiner dans un train fantôme. Hooper est très intéressé, le projet lui rappelle Nightmare Alley, un film qui lui tient à cœur. Il donne son numéro à Block, il veut absolument se tenir au courant du projet. Sachant cela, le scénariste remanie son scénario en regardant Massacre à la tronçonneuse, et il décide d'y incorporer certains thèmes présents dans le film de Hooper. En 1980, Paramount distribue Vendredi 13, un film d'horreur à budget réduit qui met immédiatement le feu aux poudres et lance la mode du slasher. Tout le milieu se met en quête de son propre slasher afin de profiter de cette nouvelle poule aux œufs d'or. Derek Power, qui était producteur sur Les Nuits de la Violence et qui a par ailleurs défendu Hooper contre le studio à l'époque, propose au réalisateur de prendre en main un projet de slasher. Hooper se rappelle du scénario de Larry Block et met en place le projet.
Horrible, horrible ! Ce sont toutes des créatures du Seigneur, pas de l'homme. Elles sont toutes authentiques et elles sont horribles. Horribles, horribles, horribles.
Le script doit immédiatement être manié. L'histoire écrite par Larry Block décrit Gunther comme un monstre encore plus grotesque et vicieux. Et cela est décrit avec beaucoup de violence et de nudité, impliquant plusieurs scènes où il attaque et viole des jeunes femmes avant de les mettre en pièces. Par exemple, dans l'une des premières scènes du scénario, Gunther attaque un couple d'adolescents dans le train fantôme, tue le garçon, arrache les vêtements de la fille, puis la viole et la tue. Le but est désormais d'écrire une histoire simple, facile et peu coûteuse à réaliser. Le genre d'histoire que les enfants pourraient se raconter autour du feu pour se faire peur.
C'est pas un vrai, c'est qu'une imitation, comme au cinéma, il est probablement en matière plastique.
Fils de monsieur et madame Larry Latner, épicier à Cédanson.
Richie, t'es vraiment écœurant.
Dans le même temps, Steven Spielberg approche Hooper avec le scénario d'E.T. l'extraterrestre et lui en propose la réalisation. Hooper hésite, mais est contraint de refuser pour s'atteler pleinement au développement de Massacre dans le train fantôme. C'est son premier film en écran large et le premier film d'horreur de studio à être tourné en Dolby Stéréo, ce qui marque une grande étape pour sa carrière.
Tu vois, c'est pas bien terrible. Ici, on a l'impression d'être Dieu le Père. En bas, on dirait de vraies fourmis. C'est marrant, non?
Peut-être, mais j'ai le vertige quand même.
Ah oui?
Oh oui.
Le budget est réduit, mais tout de même plus important que les autres slashers de cette époque. On parle ici de 3 millions de dollars, lorsque Vendredi 13 n'en avait qu'un demi-million. Le studio compte sur Hooper pour mettre en place leur nouveau plan d'attaque, conquérir le marché du slasher. Toby Hooper n'est pas grand amateur de cette nouvelle mode, mais accepte pour réaliser son rêve de tourner dans une fête foraine.
Je ne connais pas tes projets pour ce soir, mais je ne veux pas que tu ailles à la fête foraine. Ils sont déjà passés l'année dernière à Fairfield, et après leur départ, on a trouvé les cadavres de deux fillettes dans la rivière.
L'histoire est enfin prête. Il faut maintenant trouver un maquilleur de génie pour mettre en place la création d'un monstre qui soit à la fois réaliste et terrifiant. Par chance, le fils de Toby Hooper parle à son père d'un maquilleur dont il admire le travail, Rick Baker. Coïncidence, Steven Bernhardt, un des producteurs de Massacre dans le train fantôme, a été premier assistant sur le King Kong de John Guillermin, film sur lequel Rick Baker était maquilleur. Pour présenter le monsieur, on parle tout de même de l'homme qui détient le record du plus grand nombre de victoires aux Oscars et de nominations accordées au maquilleur. En 1981 également, il fut le premier à avoir l'Oscar du meilleur maquillage pour le Loup-garou de Londres, lorsque cette catégorie fut créée pour la première fois. Le choix de Hooper est fait. Il veut Rick Baker pour créer le maquillage et interpréter le monstre. Rick est très excité à l'idée de jouer le personnage, mais le monstre doit impérativement faire 2m30. Rick rappelle le producteur pour lui dire qu'il n'est pas si grand et lui propose alors Rob Bottin, un autre maquilleur qui sera plus tard à l'œuvre pour The Thing ou encore le Mission Impossible de De Palma. Rob Bottin est malheureusement pris par le tournage de Hurlement de Joe Dante et ne peut pas remplacer Rick. Celui-ci accepte alors de faire le maquillage, mais laisse le plus gros du travail à Craig Reardon, un autre maquilleur qui fera plus tard une créature de rêve de John Hughes.
Ah, toi alors, tu m'as foutu une de ces peurs.
Et vous, vous m'avez fait lâcher ma barbe à papa, connard.
Mais qu'est-ce que tu fabriques là d'abord? C'est pas des trucs pour toi, ça.
N'approchez pas, espèce d'obsédé.
Des dents l'air, qu'est-ce qui se passe, hein?
Oui, je peux, rien qui vaille la peine, en tout cas.
Ah, je vous le dis, moi, il n'y a plus de jeunesse. Vous pouvez pas laisser les gens un peu tranquilles, non? On peut même plus pisser en paix dans ce foutu pays.
Baker jouit alors de beaucoup de liberté avec la création du monstre. Notamment car le script est assez vague sur sa description. La créature y est décrite comme une personne mal formée de naissance. Baker a des remords. Il ne veut pas faire de la malformation une horreur, car il trouve cela discriminant pour les gens qui naissent avec une différence. Alors, il prend le parti de pousser le curseur au maximum, pour s'éloigner de la réalité des malformations. Il s'inspire tout de même du phénomène de la tête fendue, une malformation provoquant une déformation du visage des nouveau-nés. Soucieux du rendu de la créature, il propose à l'équipe d'embaucher un mime pour jouer le rôle du monstre, plutôt qu'un bodybuilder, ce qui arrive souvent dans les productions d'horreur de l'époque. Selon lui, les meilleurs monstres sont interprétés par des acteurs, voire des mimes.
Tu vas faire seulement ce que je te demande. Je sais, c'est moche. Mais on les enterrera, et après je t'emmènerai à la pêche. Ou ailleurs, si tu veux. Comme dans le temps.
Toby Hooper se rend à l'atelier de maquillage et du développement du monstre et pointe du doigt le moule de ce qu'il appelle l'homme vache, ce qui deviendra le monstre du train fantôme. Le masque est alors produit en 5 répliques, permettant de créer un effet de salive presque constant, volonté absolue de Toby Hooper. Hooper souhaite s'entourer d'une équipe solide pour ce film. Il recrute comme directeur de la photographie Andrew Laszlo, dont il avait aimé l'éclairage sur Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Il se met alors d'accord avec lui pour tourner le film en panavision anamorphique. Hooper prévoit 2 caméras et une seconde équipe pour rentrer dans les temps. Il faut maintenant lancer l'étape du casting pour Hooper. Il suit le conseil de Rick Baker et se rend à un spectacle de mime. Là-bas, il rencontre Wayne Doba, danseur de claquettes professionnel faisant ses débuts au cinéma. Il sera plus tard connu pour un seul autre rôle, celui d'Octavio le clown dans Scarface.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love?
Le rôle lui est accordé directement. Puis c'est au tour du groupe de jeunes, caractéristique essentielle pour le studio. Un large casting est mis en place dans 2 villes. Premièrement à Los Angeles, où sont recrutés Largo Woodruff et Cooper Huckabee, qui a alors 30 ans et qui doit pourtant jouer un adolescent. Dans le même temps, à New York, on évoque le nom de Charlene Tilton, célèbre Lucy Ewing de Dallas. Puis le nom d'Hélène Barkin circule avant qu'Elizabeth Berridge ne soit finalement castée pour le rôle d'Amy. Son physique de femme-enfant correspond parfaitement à la vision de Hooper. À New York toujours, le réalisateur découvre Sean Carson, qui se voit offrir le rôle de Joey, et Miles Chapin, que Hooper voit en Richie. Donc je jouais dans une pièce de théâtre dans un club à Manhattan, et je crois que mon agent m'avait dit à l'époque sur mon répondeur téléphonique que quelqu'un allait passer voir la pièce, quelqu'un d'important, et que potentiellement la personne viendrait en coulisses après le spectacle. Donc je suis allé au théâtre, et dans ma loge j'ai trouvé un message. C'était de la part de Toby qui me proposait d'aller boire une bière après la représentation, proposition que j'ai tout de suite acceptée. Donc il a vu la pièce, on est allé boire quelques bières, et il m'a expliqué qu'en ce moment, il était à la recherche d'acteurs pour un film. Et je lui ai dit directement banco, carrément. On retrouve également William Finlay, acteur fétiche de Brian De Palma, qui jouera entre autres le personnage de Winslow dans Phantom of the Paradise. Finlay apparaîtra peu de temps à l'écran, mais son personnage était voué à beaucoup plus d'importance. Et il apprend notamment pour le rôle beaucoup de tours de magie et d'astuces d'illusionnistes qui finissent par lui donner la passion de la magie. L'acteur Kevin Conway passe le casting de New York et accepte de jouer dans le film à la condition d'interpréter 3 rôles. Le père du monstre, le présentateur de stripteaseuse et le préposé invitant à la galerie des horreurs. Quand j'ai fait Massacre dans le train fantôme, j'ai rencontré Toby dans le bureau des producteurs. J'ai lu le script et j'ai réalisé que, enfin, déjà, pour commencer, j'avais jamais fait de film d'horreur. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse un, ça doit être fun à faire, je vais essayer. Puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnages de forains. Donc j'ai dit à Toby, ok, je veux bien faire le film, mais je veux jouer les 3 forains. Et il m'a regardé, il m'a dit, ouais, génial, j'adore l'idée.
Petite sœur de la belle Mona qui danse comme vous n'avez jamais vu danser de la façon la plus prometteuse, messieurs. Et elle n'est pas seule, car avec elle, vous verrez 6 hommes.
Vous avez déjà vu des stripteaseurs ?
Non.
N'hésitez pas à entrer, vous en aurez pour votre argent.
$3 pour ça, c'est quand même un peu cher.
Formidable. Mona, montre-leur tes talents. Tourne-toi, ma chérie, donne-leur un aperçu de la marchandise.
Les 2000 figurants seront sélectionnés sur le lieu de tournage. Et ce lieu de tournage, parlons-en. Ses contraintes sont les suivantes. Trouver un lieu assez grand pour y placer une fête foraine entière, et surtout un lieu permettant de tourner avec des acteurs jeunes. La législation est assez stricte à ce sujet, et le film nécessitant impérativement des acteurs et figurants enfants pour la crédibilité du contexte, il fallait absolument trouver une parade. Impossible de tourner dans les studios Universal. En se renseignant, l'équipe découvre que la Floride permet l'emploi d'acteurs mineurs la nuit, sous certaines conditions. C'est donc là-bas, dans les studios Norin de Miami, que le tournage aura lieu. Toby Hooper himself nous explique dans une interview l'aventure qu'a été de trouver les lieux de tournage. Le gros problème était qu'on ne pouvait pas tourner ici, dans les studios Universal. En fait, c'était même impossible, à cause des lois sur le travail des mineurs, qui ne nous laissaient que quelques heures de la nuit et encore. Mais en fait, sur la côte Est, le travail des mineurs dans un film est régi par la guilde des acteurs. Et on a pu avoir une dérogation pour que les mineurs puissent travailler toute la nuit. Hooper, qui a acquis un certain nombre de vieux jouets antiques et mécaniques, les utilise pour meubler son décor. Il s'arrange avec le chef décorateur Mort Rabinowitz pour confectionner un décor extrêmement riche et dont l'ambiance se veut mécanique. Plus de machinerie sera visible, mieux ce sera. Mort Rabinowitz est un habitué de Hooper, avec qui il a travaillé sur les vampires de Salem. Les idées ne lui manquent pas, mais il ne possède que 125 000 dollars de budget. Ainsi, certains accessoires dans la chambre de Joey appartiennent à la ventriloque Shari Lewis, grâce à l'aide du coproducteur exécutif Mace Neufeld, qui est l'un de ses amis. Le chef déco puise son inspiration dans des archives de la MGM et des magazines des années 40. Par manque de budget, certaines idées de décor sont abandonnées, notamment celle d'un musée de cire qui aurait contenu entre autres une statue d'Adolf Hitler. La fête foraine est transportée tout entière depuis l'Ohio jusqu'au studio de Floride. Le décor du train fantôme est intégralement construit en studio et est un mélange de 6 décors différents.
Cette fois, t'es allé un peu trop loin. Tu t'en es pris à un des nôtres. Je supporterais pas. Je te l'avais pourtant dit et répété. C'est vrai, je me fous des saloperies que tu peux faire avec les gens du coin. Mais je veux pas que t'aies la moindre histoire avec les forains.
Larry Block, le scénariste, est appelé pour modifier le scénario et l'adapter précisément à la topographie des lieux. Ce qui pose quelques problèmes à Andrew Laszlo, qui n'apprécie pas ces changements de dernière minute. Le tournage peut enfin commencer. Nous sommes en mars 1980, Toby Hooper est stressé, contraint de respecter un planning très chargé. Il a 30 jours pour finaliser le film sans dépasser le budget. Tourné le plus souvent de nuit, il n'a pas le droit de dépasser 12 heures de travail par jour, que ce soit pour respecter les lois du travail des mineurs ou simplement pour ne pas épuiser l'équipe technique qui doit gérer énormément de machinerie. Chaque dépassement se répercutant le lendemain et créant un effet boule de neige. Ce timing est d'autant plus serré que Toby Hooper est engagé sur un autre tournage débutant directement après Massacre dans le train fantôme pour un film nommé Venin. Sur le plateau, il enquille les canettes de coca à la douzaine. C'est pour lui un moment très compliqué. Il faut dire que pour ne rien gâcher, Miami est en proie à une importante guerre de la cocaïne et les lieux ne sont pas ce qu'on pourrait appeler un havre de paix. La sécurité est renforcée mais Hooper reste inquiet. Il entend des tirs d'armes à feu, des fenêtres explosées et des hurlements venant des habitations alentour. C'était sûrement le pire moment pour tourner un film à Miami, parce que c'était vraiment la période qu'on voit dans Scarface. Je veux dire, durant la guerre de la cocaïne, c'était très très chaud, et on sentait que ça allait exploser. Le syndicat des conducteurs était en guerre, je sais pas pour qui ou pourquoi, mais moi j'étais dans mon bureau, dans un espèce de gros complexe qui faisait partie du studio, et on entendait les coups de feu. Bam, 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 you know, the windows, les fenêtres qui explosent, les balles qui sifflent autour de nous. Chaque jour de tournage, Hooper s'adonne à un rituel. Il reste dans sa loge, devant une télévision équipée d'un magnétoscope, et regarde en entier l'exorciste de William Friedkin. Aucune scène ne peut être tournée avant que Hooper n'ait terminé son visionnage. C'est selon lui essentiel pour se plonger dans son rôle de réalisateur et pour fabriquer le meilleur film possible.
N'ayez pas peur, je veux seulement vous parler. Venez. Allons, venez, je veux seulement vous rendre votre briquet. D'abord, qu'est-ce que vous faites là-haut? C'est pas légal de pénétrer dans une propriété privée.
Malgré ce budget réduit, il a réussi à obtenir une grue industrielle utilisée pour des plans de grue du film, pouvant s'élever plus haut que la grande roue du parc d'attractions. La grue est gigantesque, elle comporte 3 sections pouvant chacune s'étendre sur 15 mètres. La machinerie employée pour le film est plutôt lourde, et l'équipe doit s'accommoder des manèges et autres attractions. Si Hooper sort indemne d'un rouage volant manquant de lui rentrer dedans, sauvé in extremis par un assistant qui ressortira le bras cassé, une équipe de figurants termine à l'hôpital après qu'un manège devant initialement durer 4 minutes s'est emballé jusqu'à une demi-heure. C'est la première fois qu'Hooper doit gérer autant de figurants. Pris au dépourvu, il se repose quelque peu sur Andrew Laszlo, le directeur de la photo. Celui-ci se charge du cadre, de la lumière et parfois même de la composition de certaines scènes. La production arrive sur le tournage la dernière semaine pour contrôler le budget et restaurer la paix. Voyant les efforts mis en place par Laszlo, elle l'augmente sur le champ pour son travail acharné. C'est avec 39 jours de tournage au lieu de 30 que Hooper finalise son film avec 100 000 dollars de dépassement.
J'aurais pu t'avoir une des stripteaseuses pour 15 dollars. Ouais. T'as jamais compris la valeur de l'argent, toi, jamais tu la comprendras.
Le tournage est terminé, mais certains rushs sont introuvables à cause d'une grève de camions transporteurs. Une bobine entière est perdue, jetée dans l'océan. 4 jours de tournage supplémentaires sont alors demandés pour retourner certaines scènes. Daniel Pearl, directeur de la photographie de Massacre à la tronçonneuse, est alors appelé pour tourner des plans additionnels. Il en profite pour tourner la séquence d'ouverture du film, un hommage au Halloween de Carpenter et aux psychoses d'Hitchcock, afin d'ancrer le film profondément dans le genre du slasher, condition sine qua non d'Universal.
Et en plus, dis-toi bien que ça ne s'arrêtera pas là, petit voyou! Je me vengerai de ce que tu m'as fait. Tu ne sauras pas quand ni où ça te tombera dessus. Mais ce sera si terrible, si horrible, que tu ne pourras jamais l'oublier. Jamais!
On peut noter ici que cette idée de commencer par une fausse scène de slasher sera reprise la même année dans le Blowout de De Palma, preuve de l'influence du slasher sur le cinéma de cette époque. Le film passe alors entre les mains du monteur Jack Ofstra, qui sera plus tard connu pour le montage de L'Expert avec Stallone, de Young Guns ou encore de Color of Night. Pendant le début du montage, Hooper doit se rendre comme prévu sur le tournage de Venin à Londres et est contraint de laisser son monteur. C'est alors en solitaire que Jack Ofstra s'assurera du montage. Il est placé sous la responsabilité de Verna Fields, monteuse des Dents de la Mer, qui est depuis 1976 devenue vice-présidente d'Universal. Elle prend alors le relais de Hooper et fait des choix stratégiques dans le montage. Elle choisit notamment de concentrer l'horreur dans le train fantôme, afin de rendre le lieu beaucoup plus angoissant pour le spectateur, plutôt que d'éparpiller la violence dans toute la fête foraine. Le train fantôme doit être l'aboutissement de toute cette ambiance macabre.
Dans le train fantôme, voyons.
Tu es fou, Richie.
Mais Fred et Edil l'ont fait il y a 2 ans à la foire de Fairfield.
Et toi, naturellement, tu les as crus. Tu sais une chose, tu n'es qu'un minus.
C'est vrai ce que je dis, ils l'ont fait. Et nous pouvons le faire. Enfin, si vous en avez envie.
Si nous en avons envie, t'es sûr que tu veux, toi?
Je vous dis que c'est Caminus.
C'est aussi ton avis?
Oui, c'est Caminus.
Parfaitement. Mais je vais le faire.
Eh, hey, d'accord, on va passer la nuit ici.
Reste le problème de la musique. On évoque le nom d'Harry Sukman, qui avait travaillé avec Hooper sur Les Vampires de Salem. Puis on parle de Giorgio Moroder. Après réflexion, c'est John Beale qui est engagé pour la musique. John Beale qui sera plus tard connu pour ses remontages de musique de films pour en faire des bandes-annonces, et deviendra alors l'homme qui a créé l'identité musicale des bandes-annonces modernes, avec des projets tels que JFK, Titanic, Star Wars, Ghost ou encore Black Rain. Un son orchestral est demandé, malgré un budget de $150,000 pour 3 jours d'enregistrement. J'ai eu la chance de l'interviewer pour cet épisode de Retour à l'écran express, et voici ce que j'ai pu apprendre. Lors de notre entretien, il m'explique que la plus grande difficulté était que le film nécessitait de la musique en permanence, et que c'était le genre de musique qui pouvait rapidement donner l'effet d'un thriller un peu cheap. Le producteur Mace Neufeld, qui l'a choisi pour le projet, lui demande alors de composer une musique qui sonnerait comme celle d'un film beaucoup plus coûteux et magistral qu'un slasher.
Pour Massacre dans le train fantôme, c'était une époque où chaque film était fait électroniquement. Les synthés étaient à la mode et étaient omniprésents. Il y en avait beaucoup sur le marché et ça permettait beaucoup de liberté. Moi, j'ai étudié avec un gars qui s'appelait Clark Spengler et qui est un vrai pionnier dans l'utilisation des synthés, donc j'étais vraiment au fait de ce qu'on pouvait faire avec. Mais Mace Neufeld, le producteur, m'a demandé d'utiliser un orchestre. Et c'était une bonne idée en fait, parce que le son des synthétiseurs date vraiment le film, alors qu'un orchestre, ça permet d'avoir une bande-son beaucoup plus intemporelle. Il arrive à composer une bande-son à la fois enfantine et terrifiante, rappelant les sonorités de la bande-son du téléfilm Hit, sorti 10 ans plus tard et composée cette fois-ci par Richard Bellis. Hooper refait surface à l'étape du mix et découvre alors son film en même temps que le studio. Il vient de quitter pour des raisons de divergence créative le tournage de Venin, un film avec Klaus Kinski qui sera alors réalisé par Pierce Agar. Devant Massacre dans le train fantôme, le studio, lui, il applaudit à deux mains. Largement conquis par le film, il se voit déjà concurrencer Vendredi 13 et marquer le coup avec ce premier slasher made in Universal. Parallèlement, l'auteur Dean Koontz écrit une novélisation du film, sous le pseudonyme d'Owen West. Il ajoute de nombreux éléments originaux non présents dans le scénario. Le livre sort avant le film à cause des retards pris durant la phase de post-production. Il est alors considéré à tort que le film est tiré du roman.
Il faut faire quelque chose!
Tu vas m'écouter, oui! Lise, calme-toi!
Quelque chose!
On ne peut rien faire pour Richie!
Sans lui, je t'en supplie, Buzz! Richie, je t'en supplie, Buzz, fais quelque chose!
Allons, sois raisonnable! Lise!
Je vais m'en aller!
Le film sort le 13 mars 1981 aux États-Unis.
Nous le découvrirons quelques mois plus tard en France sous le nom de Massacre dans le train fantôme, un titre évoquant assez peu habilement le film culte de Hooper, Massacre à tronçonneuse. Massacre à tronçonneuse qui n'est toujours pas sorti dans l'Hexagone à l'époque, encore interdit. Le film sort alors en France dans l'indifférence la plus totale. Aux US, le film rapporte 7 886 857 dollars pour un budget d'à peu près 3 millions. Personne n'est satisfait. Ni le studio, ni Hooper. En revanche, la critique est stupéfaite. Lors de la sortie, beaucoup s'attendent à un slasher gore typique, mais se retrouvent devant un film d'horreur plein de suspense et de qualité. Gene Siskel aime le film et lui donne une critique positive. Le fort accueil réservé à ce film fait réfléchir Steven Spielberg, qui malgré le refus de Hooper de prendre la réalisation de E.T., va proposer au réalisateur de prendre les rênes de son prochain projet, Poltergeist. Au Royaume-Uni, le film est poursuivi en tant que vidéo nasty, mais sans succès. Comme le film est considéré comme assez docile par la critique, il est supposé que la tentative d'interdiction soit simplement due à une confusion avec le film The Last House on Dead End Street, qui possède le titre alternatif The Fun House. Pour pouvoir diffuser le film à la télévision et pour séduire la censure télévisuelle, Hooper se résigne à tourner des scènes additionnelles dont l'objectif est d'édulcorer la violence du film pour son passage télé. Chaque détail compte. Plus d'alcool, plus de drogue, de sexe, de violence, même le mot vierge est banni.
Couche-toi, tu crois que je fais ça debout, pauvre idiot, allez !
Vraiment pas de quoi avoir honte. Ça arrive au meilleur, ces choses-là.
Massacre dans le train fantôme est disponible en VOD sur Amazon Prime. On le retrouve également en combo DVD Blu-ray chez Elephant Film. Côté import, l'année dernière, Shout Factory a sorti une édition collector avec un master 4K du film et un florilège de bonus. Attention néanmoins au disque de bonus qui nécessite un lecteur zone A. Massacre dans le train fantôme de Hooper est caractéristique de son cinéma. C'est peut-être même son film le plus représentatif des marottes du monsieur. On y retrouve son amour pour les monstres, avec Frankenstein d'abord sur une affiche, puis plus visible avec un masque que porte le monstre, accompagné d'autres masques de créatures fantastiques, comme Dracula ou le loup-garou. On pense évidemment à Freaks, une autre grande inspiration de Hooper. Le réalisateur a toujours eu une volonté de mettre en scène des marginaux, des gens rejetés de la société. C'est cette Amérique-là d'où il vient, et c'est celle-là qu'il veut protéger. On y retrouve la notion de destin, déjà évoquée dans Massacre à la tronçonneuse avec l'horoscope. C'est ici avec Madame Zena, une cartomancienne, que Hooper remet en place la notion de fatalité.
Le Seigneur a l'œil sur vous.
Je demande pardon.
Il entend tout et voit tout.
Je déteste les gens qui vous font des sermons dans les toilettes.
Le vrai plus de Massacre dans le train fantôme, c'est ce fourmillement de personnages que vont croiser les protagonistes. Une sorcière, un illusionniste, une cartomancienne, tout un bestiaire fantastique que nous ressort ici l'enfant du Texas, passionné des films de monstres. Le titre français du film éclipse toute interprétation. En réalité, The Fun House signifie un lieu où la peur et le rire se côtoient. Dans cette idée, Hooper implémente du second degré, et nous place nous spectateurs à la même place que les passagers du train fantôme, ici pour s'amuser tout en ayant peur. Il crée une vie parallèle à ses personnages, et nous montre une société qui s'établit dans le ventre du monstre, à l'intérieur du train fantôme, comme il le fera dans Massacre à la tronçonneuse 2, où la famille Sawyer évolue dans leur antre, une ancienne fête foraine désaffectée.
Hein, tu ne veux rien dire. Tu refuses de parler. Puisque c'est comme ça, je vais te rafraîchir la mémoire. Et tu retrouveras ta langue. Et c'est pas la peine de tout démolir. Tu sais bien que tes crises ne m'impressionnent pas. Arrête !
Enfin, la notion d'engloutissement et de retour aux entrailles de la Terre jonche la filmographie de Hooper. Et ainsi Massacre dans le train fantôme, avec une scène de fin dans une salle des machines, présentée comme un monstre à part entière. Sortant en pleine effervescence du slasher, le film emporte de nombreux stigmates. Un tueur masqué, des enfants de la banlieue fumant des joints et faisant l'amour en violant une propriété privée. On retrouve également la final girl, la virginité et toutes les caractéristiques d'un slasher. Mais il n'en est rien. Massacre dans le train fantôme est bel et bien un film de monstre. Le tueur se démasque rapidement et les armes blanches ne sont utilisées que par les protagonistes. Hooper trompe alors le spectateur et le studio en nous vendant un slasher pur jus. Pour ma part, j'ai découvert Massacre dans le train fantôme assez tard dans mon exploration du cinéma d'horreur des années 80. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la beauté de l'image et de la mise en scène, trop souvent mise de côté sur d'autres slashers de cette époque. On ressent la patte de Hooper et sa fascination pour les familles dysfonctionnelles et sa culture de l'étrange. Malgré son rythme en deux temps, je pense que Massacre dans le train fantôme est un essentiel du cinéma de son réalisateur et qu'il a tout à fait sa place dans la culture horrifique américaine des années 80. Hooper nous offre un film de monstre à la sauce slasher, maîtrisé, et qui offre un pont improbable entre son film précédent, Le Crocodile de la Mort, et son film suivant, Poltergeist. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. À très vite.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre.
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.